Welcome to Legalese, a broadcast about LawCast broadly. Bienvenue à Legalese, une émission consacrée aux droits qui vise à en rendre le jargon plus accessible tout en évaluant de manière critique ses institutions. I'm Christoph, and I'll be your host for this month's edition of Legalese. This month, we are discussing Quebec's Bill 21, La loi sur la laïcité de l'État. But first, some context and a trip down memory lane.
C'est vrai qu'on a été battu au fond par quoi? Par l'argent puis des votes ethniques, essentiellement.
Fait qu'on vient d'entendre le premier ministre qui est Jacques Parizeau, le soir de l'échec référendaire en 1995, qui déjà là, nous exprime qu'au Québec, la construction d'une minorité entre des grands projets nationaux puis les minorités ethnoculturelles, ben c'est un phénomène qui date. Puis bon, c'est pas une trajectoire qui est typiquement québécoise. On a, tout le monde sait, un populisme de droite qui se répand puis qui aime bien s'articuler autour d'une rhétorique islamophobe. Ben, au Québec, les conversations sur le multiculturalisme sont peut-être plus wack qu'ailleurs. Donc, on a déjà un gros coup d'envoi au début des années 2000 avec le débat sur les accommodements raisonnables qui est repris en fait par les partis québécois qui, en 2012, adoptent la Charte des valeurs québécoises, a.k.a. la Charte affirmant les valeurs de laïcité et de neutralité religieuse de l'État ainsi que l'égalité entre les hommes et les femmes et encadrant les demandes d'accommodement qui seraient au final jamais adoptées parce que le gouvernement minoritaire de Pauline Marois est renversé. Donc ensuite, c'est au tour du Parti libéral du Québec, 3 ans plus tard, d'adopter la loi 62 qui interdit aux fonctionnaires puis aux usagers et usagères le port de vêtements qui dissimulent le visage au moment de l'octroi ou de la réception des services publics. On comprend tout qu'on parle du niqab puis de la burqa ici. Fait que c'est une loi qui target les femmes musulmanes. Puis ben finalement, c'est un troisième parti politique, la CAQ, qui fait culminer tout ça en adoptant le projet de loi 21 que le premier ministre François Legault annonce sur son Facebook en mars 2019.
Bonjour tout le monde. Jeudi passé, le gouvernement a déposé un projet de loi sur la laïcité de l'État. J'ai envie de dire, enfin, c'est un débat qui dure depuis plus de 10 ans. Il est temps qu'un gouvernement mette en place des règles claires pour tout le monde. Il faut être clair, la laïcité ne va pas à l'encontre de la liberté de religion. Chacun va rester libre de pratiquer la religion de son choix. Mais faut fixer des règles, et c'est ça qu'on fait. C'est une approche qui respecte notre histoire, nos valeurs, et c'est une approche qui respecte ce que souhaite une grande majorité des Québécois. Pour éviter des longues batailles juridiques, on a décidé d'utiliser la clause dérogatoire dès l'adoption du projet de loi. C'est un outil légitime qui a déjà été utilisé par René Lévesque et par Robert Bourassa. Au Québec, ça fait longtemps qu'on a décidé de séparer la religion et l'État. Et ça fait plus de 10 ans qu'on débat des signes religieux. Il est temps de fixer des règles, parce qu'au Québec, c'est comme ça qu'on vit.
In its simplest form, Bill 21 prevents public service employees from wearing religious symbols and prevents citizens from receiving services with their faces covered when it is necessary to verify their identity or for security purposes. The Legault government has shielded the legislation from scrutiny under the Canadian and Quebec charters through the use of notwithstanding clauses. This stops individuals from challenging the bill on the grounds of religious freedoms, equality, and life, liberty, and security of the person. It's unclear how the notwithstanding clause functions in conjunction with Section 28, the gender equality provision, and similarly with Section 24(1) that deals with compensation for breaches of charter rights. Religious symbols have not been defined in the Act, and commentators have warned that this will lead to unequal enforcement. The government has said that a common-sense approach to what a religious symbol is will be used. However, this seems to favor the dominant religion of Christianity, allowing items such as wedding rings and religious effects which are easily hidden, I'm thinking crosses. This disproportionately affects Muslim women, Sikhs, and Jewish persons whose faith requires that they wear visible religious effects. Bill 21 came into effect on June 16, 2019, and within the next 24 hours, there was already a complaint before the Quebec courts. Yishrik Haq, with the support of the National Council of Canadian Muslims and the Canadian Civil Liberties Association, filed a constitutional challenge and an application to suspend the operation of the bill. The Quebec Superior Court denied this application, and the Quebec Court of Appeal upheld that decision. However, all three judges at the Court of Appeal agreed that the bill creates prejudice sérieux et irréparable. The Chief Justice Nicole Duval-Hessler dissented, finding that il faut en conclure que l'article 6 de la loi paraît limiter de manière disproportionnée et de façon immédiate les droits des femmes à l'égalité et à la liberté de religion. Hearings on the merits began on the 2nd of November and will continue for 5 weeks. You've been listening to an interview with Legalese on CKUT 90.3 FM. The hearing on the merits have been met with fierce resistance. Within the McGill Faculty of Law, 500 students, professors, staff members, alumni, and clubs are formally asking that the CAC repeal Bill 21. On the first day of the hearings, the Muslim Law Students Association and RAD Law co-organized a sit-in at the Palais de Justice.
I can't aspire to become a Crown Prosecutor. I can't work for any provincial commission, for example. This places an arbitrary glass ceiling on somebody who wants to be religious, but also is capable of being religiously neutral and who wants to serve the public, and that's just unfair. In law school, we're taught that impartiality isn't just about appearance. It's about how one conducts themselves and how one behaves and one acts. It is not about these superficial symbols. I've worked in the federal government, and I'm fully capable of working in the Quebec public sector. I want to be able to serve the Canadian public. Canada is my home. I value being in a pluralistic society, and honestly, it's so like discouraging that people think that by being a Muslim woman and being a visible Muslim woman, that I'm incapable of fulfilling a certain job.
That was Khadija Ahmed, representing the McGill Law Muslim Students Association outside the Palais de Justice. A lot of us immediately called Bill 21 for what it is, a legalization of systemic oppression, mandating discrimination on the basis of race, religious beliefs, class, and gender, and all that in the name of supposed neutrality and laïcité. We discussed with Professor Vincent Romani on the coded racism encapsulated within the bill and the semantic slipping of the concept of laïcité.
Bonjour, Vincent Romani. Vous êtes professeur à l'UQAM, affilié au Centre de recherche en immigration, ethnicité et citoyenneté et à l'Institut de recherche et d'études féministes. Vous vous intéressez à la violence politique, à l'orientalisme et aux études critiques de la blanchité et de la race, notamment. Et vous avez publié cette année avec des collègues « Modération ou extrémisme, regard critique sur la loi 21 » que vous avez co-dirigé et dans lequel vous signez le chapitre « Loi 21 québécoise et l'indicible mot en R, réfuter le racisme pour mieux dominer ». Alors, merci d'être avec nous aujourd'hui. Donc, en fait, ma première question, c'est sur le 7e chapitre, donc de Leila Benadjoudja et de Leila Silis, colonialité du pouvoir au temps de la loi 21. Alors, ben, la thèse de ce chapitre-là, en fait, c'est que la loi 21, elle opère simultanément là, sur du sexisme, du racisme, du capitalisme. Qu'est-ce qu'on veut dire par là quand on dit que la loi 21, c'est un projet colonial?
Alors bonjour tout d'abord, merci beaucoup de votre invitation qui me fait beaucoup d'honneur. Je rappelle, comme vous l'avez rappelé, mais j'insiste toujours que je ne suis qu'un transmetteur de savoir, un co-ordinateur d'un ouvrage collectif avec d'autres collègues et que donc j'ai vraiment un devoir important en fait de représentation et de ne pas en fait invisibiliser mes autres collègues qui, pour Leila Silis, en fait, n'a pas pu se libérer. Concernant justement le chapitre qu'elle a co-écrit avec Leila Benhajouja, elle met en avant cette notion de colonialité du pouvoir qui permet en fait à un collectif qui a le pouvoir en fait de s'arroger le droit en fait de décider à la place des autres qu'est-ce qu'ils doivent porter, qu'est-ce qu'ils ne doivent pas porter, quel est le sens de leur vêture. Dans quelle mesure on va décréter qu'ils sont ou qu'elles sont, en particulier les femmes musulmanes, mais pas que elles. Quel est le sens en fait à donner en fait à leur choix à la fois vestimentaires, à leur choix existentiel, à leur choix intime, à la définition de leur intimité et à la définition de leur domination. Et cela, s'arroger le droit de le faire sur elles, on va le faire sans elles. Voilà, c'est ça la notion de colonialité du pouvoir qui est dans l'analyse en fait de Leila Benhadjoudja et Leila Sélis. C'est l'idée de s'arroger le droit de dire l'autre à sa place.
Dans votre chapitre, vous faites quand même un petit peu aussi sur cette idée-là. Vous abordez le concept là, du racisme culturel et religieux. Puis moi, j'aimerais qu'on le définisse, puis aussi qu'on le croise avec le concept de la laïcité, particulièrement de la transformation de ce concept-là qui est comme plus du tout le même que celui pour lequel on militait pendant la Révolution tranquille. Puis je pense que c'est important de faire cette distinction-là parce il y a beaucoup là, de personnes qui supportent la loi 21 puis qui se réclament de cet héritage-là.
Oui, je vais prendre la réponse à cette question ou une tentative de réponse parce qu'évidemment c'est extrêmement compliqué. Ou dans le résumé des travaux antérieurs qui ont été faits par beaucoup d'autres que moi, mais je pense qu'il est important de commencer par cette notion d'évolution en fait de trajectoire historique de la laïcité dans un contexte où initialement elle était conçue d'une manière institutionnelle premièrement, où il s'agissait en fait de dégager institutionnellement ce qui appartient en fait à l'état civil par rapport à l'institution ecclésiale qui était l'Église. Donc, on avait vraiment une approche qui, premièrement, était institutionnelle, hein, de dégager en fait les conflits d'intérêts et de dégager deux identités politiques ou sociales différentes, d'une part celle de l'Église et d'autre part celle d'un état civique et civil qui revendique une distinction par rapport à une religion institutionnalisée comme l'Église catholique. Donc ça, c'est la première chose à avoir en tête. Par comparaison, évidemment, aujourd'hui, on n'est plus du tout dans cette dynamique-là. Il s'agit non pas de traiter entre institutions, mais de traiter de le rapport à l'État des individus citoyens, des individus employés. Donc là, vous voyez ce premier décalage. Le deuxième décalage, en fait, de cette évolution, de cette trajectoire de la laïcité. Et donc là, je parle sous le contrôle évidemment de Jean Bobéro en France, qui a travaillé sur l'histoire de la laïcité, et sous le contrôle évidemment également de Micheline Milhaud, qui est à l'UQAM, a beaucoup travaillé sur l'histoire de la laïcité. Elle a fait toute sa carrière en fait pour expliquer ce que j'essaye de retranscrire, cette notion dans ce deuxième déplacement, que la laïcité est une notion d'ouverture en fait, qui permettrait à toutes les religions d'exister, à tous les individus de pratiquer leur religion, y compris dans l'espace public, autant que dans l'espace privé, est devenue quelque chose de beaucoup plus coercitif à mesure que cette dimension libérale disparaissait et à mesure que croissait tout un ensemble de préoccupations, de panique raciale, de panique identitaire au Québec, à partir de la décennie, on va dire 90. Donc à mesure en fait que disparaissait la question politique de l'indépendance, beaucoup de personnels politiques faisaient apparaître cette notion de fragilité identitaire associée à l'immigration. Et là, on a quelque chose qui est très problématique puisque il s'agissait aussi d'un déplacement de la préoccupation nationaliste québécoise où l'objectif d'une souveraineté disparaissant, il s'agissait de faire oublier la disparition de cette impossibilité d'une souveraineté en trouvant quelque part des boucs émissaires qui n'étaient plus les anglophones dominants, ces ennemis en fait, ou ces menaces, ou ces risques, devenaient des boucs émissaires beaucoup plus faciles qu'étaient donc les migrants. Mais ça repose évidemment sur une supercherie, sur la vision d'une histoire linéaire qui fait apparaître la question migratoire au Québec comme étant un problème de personnes racisées qui permet de faire oublier la dimension coloniale de l'histoire du Canada, qui inclut l'histoire du Québec, et qui est une histoire de blancs européens, anglophones comme francophones, qui est une histoire de blancs chrétiens, qui arrive en fait dans un pays où des hommes et des femmes brunes, racisées, ou qui seront racisées, existaient depuis plus de 10 000 ans. Et donc, si on oublie cette histoire de plus de 10 000 ans, d'existence en fait de multiples sociétés de femmes et d'hommes bruns sur l'île de la Tortue, le Canada. Si l'on oublie, si l'on apprend à ne pas savoir, à oublier, à ignorer le fait que ces colons blancs européens se définissaient dans la blanchité par opposition en fait à ces autochtones, à ces premiers peuples, par opposition aux esclaves noirs que ces mêmes colons européens ont importés au Canada pendant 2 siècles. Et donc, si l'on fait oublier en fait que Il y a des milliers d'esclaves noirs qui existaient dans les premiers siècles d'existence du Canada. Si l'on oublie enfin d'autres dimensions de l'histoire raciale du Canada, que des Asiatiques sont par milliers dès le 19e siècle, que des populations moyen-orientales arrivent au Canada dès la fin du 19e siècle par milliers également, eh bien, si l'on oublie d'une manière systématique, d'une manière stratégique, parce que toutes ces dimensions-là sont systématiquement évacuées des programmes scolaires, sont évacuées de l'histoire culturelle, sont évacuées des musées, sont évacuées de toute cette dimension-là qui permet de se créer une identité blanche. Si tout cela est oublié, ben on permet d'imaginer en fait et de créer de nouveaux enjeux qui seraient liés aux personnes migrantes, aux personnes non blanches qui interviendraient seulement dans l'existence en fait au Québec dans les décennies 80-90. Alors, voilà tout le détour qu'il était nécessaire de faire avant de revenir en fait à la réponse à votre question de ce déplacement historique de la notion de laïcité, en fait, comment elle finit par s'indexer à la question raciale alors que ce n'était pas le cas au début. Le conflit politique se développait entre une Église qui perdait son pouvoir politique sur la société et un État civil qui entendait le disputer à l'Église et le conquérir, ce pouvoir, alors que dans l'univers colonial de ces mêmes métropoles, la direction, le pouvoir, la coercition, l'oppression contre les peuples colonisés étaient confiés aux églises, en fait. Donc c'est un pouvoir politique qui était confié contre des groupes et des sociétés racisées à l'extérieur des métropoles, alors qu'à l'intérieur des métropoles, on mettait en avant une laïcité blanchie. Vous avez en fait tout un tas d'exemples dans l'histoire des racismes, en particulier des racismes d'État, qui montrent en fait comment des groupes religieux peuvent être totalement biologisés par tout un ensemble d'artifices où l'on demande en fait à des groupes de se comporter d'une manière, de porter tel ou tel vêtement ou de ne pas porter tel ou tel vêtement. Ça, c'était le cas de l'Espagne catholique pendant plusieurs siècles contre les descendants des Juifs et des musulmans qui avaient réussi à rester en Espagne, même en se convertissant. On les pourchassait en permanence pour savoir si c'était vraiment converti. Il y avait le soupçon permanent qui pesait sur eux, ça a duré des siècles, après avoir déporté en masse, premièrement, toutes les personnes juives et musulmanes. Donc, seuls ceux et celles qui s'étaient convertis ont pu rester. C'était des personnes qui étaient éduquées. Et donc, il a fallu que l'Espagne catholique mette en place, à travers les municipalités, les principautés, un certain nombre de lois d'interdiction d'accès à des métiers pour permettre en fait aux personnes qui n'étaient pas d'origine juive, qui n'étaient pas d'origine construite musulmane, pour permettre donc l'accès à des corps de métiers et interdire donc toute ascension sociale en fait à ces groupes qui étaient mécaniquement racisés, je veux dire. C'est-à-dire qu'on a créé tout un ensemble d'indices biologiques, d'indices matériels pour permettre de dire qu'ils étaient juifs ou qu'ils étaient de sang impur. Et donc c'est encore un paradoxe que l'on entend aujourd'hui. Toutes les discussions autour de l'islamophobie articulent l'hérédité, le biologique et le culturel. Et donc c'est une erreur en fait de penser l'histoire du racisme comme une séquence où l'on verrait d'abord un racisme biologisé de type nazi, avec aujourd'hui un nazisme qui serait seulement culturel, c'est-à-dire qui ne s'intéresserait qu'aux croyances et aux pratiques religieuses ou aux origines culturelles en fait, des groupes visés, des groupes racisés, alors qu'en fait l'imbrication du culturel et du biologique existe dès le départ.
Dans le fond, moi aussi j'avais envie qu'on parle particulièrement de la dernière partie de votre chapitre qui s'appelle « Sur le travail permanent d'ignorance active ». Il y a beaucoup de mobilisation en ce moment sur le campus de la faculté contre la loi 21. Puis bon, cette mobilisation-là est surtout virtuelle parce que on est dans une drôle de pandémie. L'ignorance active, elle s'est déchaînée là, sur toutes les plateformes auxquelles on participe. Puis c'est juste excessivement épuisant. Vous abordez cette notion-là, notamment en distinguant le non-racisme de l'antiracisme. Puis aussi, vous parlez de la notion de codage, qui serait le camouflage des effets racistes de pratiques par des justifications vertueuses en apparence, donc neutralité, objectivité, on vient de le nommer, la laïcité. Fait que c'est quoi ce travail permanent d'ignorance active-là, puis comment est-ce qu'il s'incarne dans la loi 21, puis dans les conversations publiques là, qui s'y attardent?
Donc, c'est pas moi qui ai inventé cette notion-là, c'est toute l'expérience en fait de l'esclavage et du racisme subi par les afro-descendants, les noirs états-uniens et nord-américains, plus largement même au Canada, et donc toute leur théorisation de cette blanchité suprémaciste. Hein, donc je répète qu'à l'instar de Sirma Bilge et de toute cette littérature des études critiques de la race, que la suprématie blanche, ce ne sont pas les néo-nazis armés qui veulent faire des attentats, c'est un système de domination blanche généralisée. Donc c'est ce qui caractérise nos sociétés à tous les niveaux. Et donc ce travail de suprématie blanche repose sur plusieurs mécanismes. Parmi ces mécanismes, il y a par exemple cette notion de fragilité, c'est-à-dire de retournement, en fait, d'inversion de la domination. Ça, c'est un classique. Mais pour prétendre qu'on puisse être ultra-dominant, avoir le pouvoir à tous les niveaux les plus puissants, à tous les leviers, à tous les carrefours, à toutes les institutions, en fait, vous prenez n'importe quelle institution, vous regardez comment est distribué le pouvoir, et vous avez les personnes qui balayent tout en bas, qui sont racisées et précaires, et vous avez le pouvoir des conseils d'administration qui est assez uniformément composé d'hommes blancs. Et pour ne pas voir ça, il faut créer aussi un mécanisme d'ignorance, en fait. Alors, ça fonctionne sur plusieurs niveaux. Cette fragilité va avoir besoin de l'ignorance pour être niée et permettre la domination. C'est comme une triangulation. Il y a une domination factuelle, un retournement psychique de ce fait, en fait, suprémaciste, crée l'idée de fragilité ou de faiblesse ou de risque. Et le verrou, en fait, c'est l'ignorance. Le verrou, c'est ça qui fait tenir tout ça ensemble. Et ça prend, alors, ce que disent, en fait, les intellectuels afrodescendants, ça prend beaucoup plus que ne pas savoir. Ça prend quelque chose d'extrêmement actif, en fait. Et donc, ce n'est pas des non-décisions. C'est pas contourner quelque chose, c'est décider que dans les programmes scolaires, on ne va pas parler de l'histoire de l'esclavage. C'est décider qu'on va utiliser tel mot et pas tel autre. C'est décider que notre muséologie et nos musées vont traiter de l'histoire de nos pays de cette manière et pas de telle autre. Et enfin, on peut remonter un peu de tout ce qui est de la production culturelle, en fait, d'une société. À la télévision, au cinéma, au théâtre, c'est ce que Edouard Said appelait les archives culturelles d'une société. Si on va voir un auteur comme Fegin, en fait, qui est un théoricien afro-descendant du cadre racial blanc, comment je vois en tant que blanc, comment les blancs voient leur société et la construisent avec un regard qui fonctionne par projecteur et par angle mort, il montre, en fait, que c'est la répétition permanente. En fait, il va aller chercher même jusqu'aux neurosciences pour montrer que pour blanchir le monde, ça va prendre une répétition constante, en fait, de l'idée que nous sommes dans une société blanche, que les personnes non blanches ne comptent pas dans la construction de nos identités, et ça va prendre multiples supports. Et donc, c'est ça l'idée que l'ignorance active, elle est construite par tout un ensemble des milliers, en fait, de personnes qui prennent des milliers de décisions chaque jour pour savoir ce qu'ils vont transmettre comme image de leur propre société. Alors, il faut vraiment s'imaginer à la place d'un groupe dont on va commencer à se saisir de l'existence et dont on va commencer à se poser des questions sans eux sur leurs qualités humaines, en fait, leur égale qualité humaine.
Fait que dans le fond, j'avais envie là, de conclure l'entrevue là, en récitant l'extrait par lequel vous avez conclu votre chapitre, en autorisant le mépris contre certains groupes avec leur discrimination légalisée. Puis en condamnant les pratiques extrêmes, pourtant congruentes avec ce dispositif, le gouvernement fait mine d'éteindre un incendie qui l'alimente en même temps. Cet extrémisme modéré a pour fonction stratégique de conforter la blanchité hégémonique et ravive une question à laquelle Frantz Fanon répondit par la négative. Si le racisme souffre plusieurs modalités et localisations, existe-t-il pour autant des degrés au racisme? Ainsi qu'un premier ministre du Québec affirme le 18 juin 2019 que pour éviter les extrêmes, il faut en laisser un peu à la majorité et permet que l'on interprète le « en » de sa phrase et son propos comme octroyant à la majorité un droit au racisme. C'est quoi le mal que ça nous fait, la loi 21, collectivement?
Oui, ben j'aurais envie de dire, c'est une question qui est bouleversante, en fait, quand on réfléchit à ses implications. Mais je vais vous dire qu'elle est d'autant plus bouleversante que la réponse ne peut pas être la même pour la majorité blanche et pour ceux qui subissent matériellement le racisme. Là où des personnes blanches, cette loi va travailler l'image qu'ils se font de leur société, soit qu'ils vont être contents qu'en fait de vivre dans une société où l'on exclut, on minorise, on infériorise en fait des groupes qui ne sont pas blancs. Soit même qu'ils soient contre cette idée, parce que ça là, quand ils se regardent dans une glace, dans un miroir, ils ne sont pas contents de l'image que ça donne de leur propre société. Et on n'est pas du tout dans le même ordre de conséquences pour les personnes qui subissent matériellement en fait, ce racisme. Les conséquences, en fait, c'est très prosaïquement. L'idée que l'on puisse discuter de l'opportunité, de la manière de se vêtir, de la légitimité d'une personne voilée musulmane, par exemple, ou d'une personne qui porte un turban, ou d'une personne qui porte une kippa, eh bien, le mal est fait. Le mal est déjà fait avant même que la loi agisse, puisque a été légitimé un débat sur la légitimité d'exister de ces personnes, sur leurs égales compétences, sur leur capacité à exister dans l'espace public et en tant que fonctionnaire de l'État, en tant qu'employé. Le mal est déjà fait puisque le gouvernement a décidé que l'on pouvait discuter de l'égalité de cette personne, de leur légitimité d'exister dans l'espace public, de leur légitimité nationale. Mais elles sont d'ordre puissamment matériel, elles raccourcissent des vies, en fait. Elles privent d'accès aux soins, à l'éducation, au développement économique, à l'ascension sociale, toutes ces catégories visées par la loi. Et donc c'est une loi qui est profondément, qui repose sur une manière de penser, mais qui met en application quelque chose de profondément divisif, hiérarchique, et problématique.
That was Professor Vincent Romani talking to Legalese's Audrey.
This is Nancy from Not You, and you're listening to CKUT 90.3 FM in Montreal, Quebec.
Welcome back. Since Bill 21 became law, teachers and students who wanted to teach in Quebec have had their dreams destroyed. Maître William Corbatli normally practices business law and arbitration, but as more and more people had questions about the law, he stepped up to help them navigate their rights in Quebec. Legalese's Michel reached Maître William Corbatli to talk about the ongoing trial.
Mon nom est William Corbatli, je suis avocat. Je pratique moi principalement en droit des affaires corporatif et des OBNL.
Depuis le Bill 21, la loi, le projet de loi 21 est devenu loi, vous avez fait des activités pour soutenir des gens. Est-ce que vous pouvez parler pourquoi vous faites ce travail-là?
Oui, parce que, encore une fois, évidemment, avant l'adoption de la loi, j'ai fait plusieurs conférences pour expliquer on va voir quoi dans cette loi et on attend à quoi. Alors, c'est toujours, je suis toujours sollicité, surtout dans le milieu de la communauté musulmane, pour venir et leur expliquer qu'est-ce qui se passe. C'est quoi cette loi? Ça va donner quoi? Quelles sont les conséquences? Comment l'affronter? Etc. Alors, j'ai fait ça avant la loi 21. Et après la loi 21, les conférences que j'ai données, comme il y avait plusieurs contestations constitutionnelles, j'ai pas couvert ça spécifiquement, mais j'ai couvert un côté plutôt pratique. J'ai fait la séparation entre les stagiaires et entre, mettons, les enseignantes en bonne et due forme, parce que la loi ne s'applique pas sur les stagiaires. Alors, en disant comme quoi, si vous êtes stagiaire et vous faites refuser un poste à cause de votre signe religieux, ben là, c'est illégal. Ça, c'est pas inclus dans la loi. Une autre distinction, c'est qu'au niveau de l'embauche en tant que telle, la loi s'applique sur l'enseignant qui est en pratique. Alors, une enseignante ou un enseignant qui veut être embauché, la loi ne doit pas s'appliquer sur lui parce qu'il n'est pas encore embauché. Alors que les commissions scolaires à l'époque, ce qu'ils ont fait, c'est que si la personne dit non, 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 je ne veux pas enlever mon voile, par exemple, il les a refusés tout de suite, en fait. ce qui est, selon moi, c'est illégal parce que c'est discriminatoire. Alors, à l'époque, à l'embauche, en fait, il demandait aux enseignantes de signer un certain papier qui dit « Ok, je m'engage à ne pas porter mon voile durant les heures de travail. » Et même, on a amené ça devant la commission de droits de la personne. Et à ce moment-là, on était capable de leur, au moins, je ne veux pas dire convaincre, mais au moins qu'ils réfléchissent sur cette étape-là au niveau de l'embauche. Parce qu'une fois c'est embauché, la personne est embauchée, mais là, la loi s'applique, il n'y a pas de possibilité.
Vous parlez des expériences des gens pendant la période d'embauche, ce qu'ils entendent des potentiels employeurs. Qu'ils disent par rapport à la loi, l'impact sur leur vie?
Bon, évidemment, écoutez, là, surtout pour les jeunes femmes, parce qu'on n'oublie pas, il y a des droits acquis, mais même ce droit d'acquis, là, c'est pas mal limité, là, mais je vais y revenir. Mais pour ces jeunes femmes qui sont en train de terminer leur bac ou bien en train de faire le stage, mais là, ils vont faire quoi? C'est comme ils ont étudié pour rien. Évidemment, c'est dévastateur pour elles. Hein? Alors, c'est sûr et certain que ou bien ils doivent enlever leur voile. Elles se sentent nues sans son voile. Là. C'est littéralement ça, le sentiment. Ou bien ils doivent changer de carrière ou bien juste ils doivent trouver un emploi dans une école privée. Parce que les écoles privées sont exclues de la loi. Et même pour ceux qui ont déjà le droit acquis, mais là, le droit acquis s'applique s'ils restent dans leur emploi. Alors, s'ils se promènent, mettons, s'ils obtiennent, mettons une personne qui habite à Montréal-Nord ou à Pointe-des-Îles, par exemple, Pointe-des-Îles, et là, on a la commission scolaire là-bas, et cette personne déménage à Laval. Mais là, ça veut dire qu'il y a un changement d'employeur. Alors, dans ce cas-là, elle perd son droit acquis. Et là, elle doit enlever son voile. Alors, c'est vraiment dévastateur, là. Par contre, j'ai aussi un bémol. La commission scolaire est indépendante parce qu'ils sont, elles sont élues, là. Les commissaires sont élus. Alors, c'est indépendante et elle a sa propre personnalité morale. Alors, elle peut embaucher ses propres employés. Maintenant, avec les centres de services, sont tous des fonctionnaires. Alors, ce ne sont pas des entités autonomes en tant que telles. C'est maintenant relié directement au gouvernement. Alors là, je pose la question, est-ce qu'une personne qui change de centre de services, elle perd son droit acquis? Ça ne devrait pas. Parce que là, on reste sous le même employeur maintenant, qui est le gouvernement du Québec, au lieu de la commission scolaire X ou Y à l'époque.
Maintenant, quand vous parlez de cet aspect-là, on pense à des poursuites peut-être dans le futur, mais maintenant, le 2 novembre, on commence une audience pour 4 poursuites contre la loi. Est-ce que vous pouvez partager vos pensées là-dessus?
Bon, j'aimerais résumer genre rapidement la nature même des poursuites, hein, ou le fondement même des poursuites. Parce qu'on sait très bien avec la clause dérogatoire ou publiquement connue sous la clause non-obstant, mais c'est la clause dérogatoire, c'est que avec cette clause-là, dans l'article 33 de la Constitution canadienne, de la loi 1982, les gouvernements, que ce soit fédéral ou provincial, ont le droit de suspendre la surveillance des tribunaux sur la constitutionnalité des lois. Et ça pour une période de 5 ans. Et cette suspension s'applique sur tous les droits et libertés qui sont inclus à l'article 2 et 7 à 15 de la loi 1982. Ce qui est connu sous la Charte canadienne des droits de la personne. Évidemment, en principe, c'est toute contestation par rapport à la non-constitutionnalité de cette loi. Les tribunaux ne peuvent pas se pencher là-dessus parce qu'ils sont bloqués par cette clause dérogatoire. Ceci étant dit, une des contestations prétend ou allait que Cela n'empêche pas que le tribunal fait un jugement déclaratoire que ça va à l'encontre de la charte, sans nécessairement de se prononcer ou bien de décider ou bien de prononcer une certaine injonction de la loi nécessairement. Alors ça, c'est un aspect de la contestation. D'autres aspects, on a évoqué, en fait, on a fait genre une innovation constitutionnelle là, dans la façon de trouver des moyens ou bien des arguments pour contester cette loi. On voulait revenir au pouvoir d'un gouvernement fédéral ou provincial d'utiliser l'article 33. À l'époque, en 1988, il y avait une contestation, c'est l'arrêt Ford et Devin, où on a essayé en fait de dire non, les gouvernements ne peuvent pas utiliser la clause dérogatoire comme ça, sans balise là. Ils doivent justifier l'utilisation de cette clause là. À l'époque, le juge a décidé, la cour a décidé, non, c'est un pouvoir purement politique et là, les tribunaux n'ont rien à faire là-dedans. Alors, une des contestations, ils vont essayer de dire que désormais, avec tout le contexte, après 30 ans, il faut qu'on change comment on voit ce pouvoir-là. Maintenant, est-ce que le tribunal va oser à casser ou à essayer de changer l'orientation via la jurisprudence de la Cour suprême là-dessus? Je ne sais pas. Un autre argument, c'est par rapport spécifiquement, surtout pour la commission scolaire de English Montreal, c'est qu'ils ont utilisé l'article 23 de la Charte canadienne qui parle de la protection des droits des minorités linguistiques. Dans ce cas-là, comme le gouvernement est en train de forcer la commission scolaire anglophone, là, c'est une atteinte directe à son droit qui est protégé par l'article 23 de la Charte canadienne. Et sur cette base, le tribunal doit casser la loi 21 pour les commissions scolaires anglophones uniquement. Une autre base de contestation aussi, c'est au niveau de l'article 28 de la Constitution. Indépendamment des autres dispositions de la présente charte, les droits et libertés qui y sont mentionnés sont garantis également aux personnes des deux sexes. Où la clause dérogatoire couvre tous les droits et libertés qui sont inclus dans l'article 2 et l'article 7 à 15. Dans l'article 15 spécifiquement, c'est là où on parle d'égalité entre sexes. La loi ne fait pas exception de personne et s'applique également à tout. Et tout ont droit à la même protection et au même bénéfice de la loi, indépendamment de toute discrimination, notamment des discriminations fondées sur nationale ou ethnique, la couleur, la religion, le sexe, l'âge, etc. Ça, c'est l'article 15. C'est couvert dans la clause dérogatoire. Mais quand on voit la genèse de l'article 28 de la charte, les opinions sont divisées, les opinions des constitutionnalistes, parce qu'il y a parmi elles qui disent que non, l'article 28, c'est un article interprétatif et lui, ça, il a été fait, c'est comme en complémentarité de l'article 15 qui est déjà couvert dans la clause dérogatoire. D'autres qui disent que non, l'article 28, il a créé une autre exigence, genre un autre droit pour protéger les femmes et c'est pour cela qu'on l'a mentionné dans un article à part, qui est l'article 28. Alors, si les tribunaux adhèrent dans le sens que l'article 28 n'est pas considéré comme un article interprétatif, mais plutôt un article qui crée un droit en tant que tel, qui est qu'il ne faut jamais créer une certaine discrimination entre les sexes, là, oui, on se dirige vers une déclaration d'inconstitutionnalité de la loi 21. Et encore une fois, le gouvernement dit ici, non, cette loi s'applique surtout. Oui, je veux bien, mais la discrimination ne se manifeste pas nécessairement juste dans le texte de la loi. Alors, si l'application de la loi fait en quelque sorte que juste les femmes qui sont les conséquences de cette loi, là, dans ce cas-là, on tombe dans l'interdiction inscrite dans cet article-là. Il y a un autre argument de contestation dans la jurisprudence, dans l'arrêt sur la sécession du Québec en 1998, on a parlé des principes sous-jacents. fédéralisme, la primauté de droit et la protection des droits des minorités. Le principe de cette loi a fait en sorte qu'elle va à l'encontre de ce principe constitutionnel sous-jacent et toute modification à ce sujet nécessite une modification, un amendement constitutionnel carrément. Là.
Peut-être si vous pouvez nous donner un résumé de le contexte social, le contexte légal quand on parle de ce type de loi.
On sait très bien que la CAQ, là, dans sa plateforme électorale, elle a dit qu'elle voulait régler cette affaire une fois pour toutes. Et elle veut appliquer Bouchard-Taylor plus les enseignants. Et que c'est la population totale, complète du Québec qui veut la laïcité. Oui, c'est vrai que la population du Québec veut la laïcité. Mais là, de quelle laïcité on parle? Le gouvernement, là, même François Legault, à mon point de vue, moi, cette loi-là, c'est un juste milieu entre ces personnes qui veulent absolument forcer les gens à vivre comme eux, comme la majorité francophone culturelle, alors la droite identitaire, autrement dit, entre les personnes de gauche, d'extrême gauche, selon lui, qui disent « Non, 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 on ne veut aucun compromis sur les droits et libertés. » Alors, pour lui, ce loi modérée, elle, c'est un compromis entre les deux. Et principalement à cause de cette loi, il a été élu. Cela a créé, jusqu'à maintenant, en fait, une grande division dans la société. Là. Les effets pervers de ça, là, c'est que, oui, ça s'applique maintenant juste sur les fonctionnaires. Les personnes ont subi des agressions physiques, là, si ce n'est pas verbal, ou même de crachats dans leur visage, ou retourner chez vous, espèce de terroriste, ou whatever. Le climat social vraiment a été détérioré et il continue à détériorer aussi. Là. La droite populiste, elle travaille sur ce qu'on appelle les wedge politics pour qu'ils s'assurent de rester au pouvoir le plus longtemps possible, peu importe les conséquences sociales. C'est loin d'être fini. Là. Surtout que, juste pour rappeler, à une durée de 5 ans, si entre-temps le gouvernement change ou perd sa majorité, mais là c'est très facile d'arrêter 5 ans ou bien de ne pas les renouveler. Et là, on revient à la case de départ. Parce que n'oubliez pas, le moment que la clause dérogatoire ne s'applique, la loi va être contestée tout de suite. Très, très, très probablement que cette loi va être déclarée inconstitutionnelle. Alors, mon message, c'est que vous, surtout vous les jeunes, là, les jeunes juristes, je me rappelle très bien quand j'étais sur les bancs des écoles, j'avais beaucoup plus d'énergie que maintenant, ça c'est sûr et certain. Mon message est de continuer à être impliqué sur tous les fronts, que ce soit juridique ou bien social ou démocratique, les manifestations, etc. Alors, il faut garder tout ça là. Pas que nous-mêmes, ceux qui militent contre cette loi, il ne faut pas qu'on tombe aussi dans le populisme. Hein. Il faut que notre message soit intelligent. Si l'autre n'est pas d'accord avec nous, ça ne veut pas dire qu'il est automatiquement xénophobe ou raciste. Alors, si on veut changer les choses, il faut les changer intelligemment et ne pas juste crier au loup pour quelle action de ce gouvernement ou tout autre gouvernement.
Merci beaucoup pour votre temps.
Avec plaisir.
That was Maître William Corbatley, a lawyer in Quebec who gives workshops about the effects of Bill 21. Up next, we'll hear from Asiya Siddiq, a native Montrealer who is in her second year at McGill Law. Asiya is part of the Muslim Law Students Association and is the current Vice President Academic for the Law Students Association at McGill. She chats with Legalese's Camila about who she is and her perspective as someone who is negatively impacted by Bill 21.
Comment le fait de grandir ici doit t'influencer en tant que personne?
Et je pense que l'un des meilleurs cadeaux que la vie m'a offert, c'est la chance de grandir ici à Montréal. Où est-ce qu'une fille musulmane peut fréquenter une école catholique et vivre dans un quartier juif et être meilleure amie avec une fille hindoue tout en vivant et en maintenant ses propres convictions religieuses? C'est ici, c'est à Montréal, au Québec et au Canada. Et quelque chose d'unique se passe ici. Les conversations que j'ai avec mon dentiste juif sont parmi les meilleures. Nous échangeons, nous nous posons des questions, nous apprenons l'un de l'autre et nous réalisons que des enjeux similaires affectent nos deux communautés. Et je crois que la diversité de la ville de Montréal est une grande richesse. Ce que ces expériences uniques m'ont appris, c'est que nous sommes au fond, fondamentalement, tous pareils. Nous voulons tous vivre en paix, nous voulons tous faire de notre mieux pour servir notre société et surtout, nous n'avons pas besoin de nous mettre d'accord sur quoi que ce soit pour être gentils et respectueux les uns envers les autres.
Why did you choose to come to law school?
So I think my faith and my spirituality have played a pivotal role in my life. Mm-hmm. As a Muslim, my faith teaches me to pursue and fight for justice. So I came to law school to learn the tools that I need to help people who face injustice. And unfortunately, injustice is all around us in all its forms, whether it be racial and religious inequality, whether it's economic or social and environmental injustice, the issues that affect the indigenous communities, people of color, there are genocides taking place as we speak. So there's a lot to work on. And I think law school will give me the tools to help fight for people's rights wherever they may be. My experience at McGill Law has been very positive and enriching. I love the fact that it is a bilingual and trans-systemic program. My colleagues at the faculty are incredible people. They come from diverse backgrounds, both in terms of their previous education and work experiences. They also come from a diverse background in terms of their racial, linguistic, and ethnic backgrounds. And I'm truly honored to be able to study with people of such caliber and brilliance.
I know that you're involved with the Muslim Law Students Association and that the Muslim Law Students Association kind of teamed up with the Radical Law Students Association and together organized a protest against Bill 21, a kind of a coalition of students against Bill 21. After that experience and after being at the manifestation on November 2nd, what impressions are you left with?
The support and the solidarity that I witnessed from my fellow McGill Law colleagues who showed up on a dark and cold and windy Monday morning was mind-blowing. As a person who was directly impacted by this horrendous law, I felt a sense of hope revive inside of me. I'll be honest, it is easy to lose hope and feel like things will never change. But seeing the incredible support from colleagues was very heartwarming. It was energizing, and it's a reminder that there is so much good around us, and we must never lose hope, and we must continue to fight for equality.
With this bill, I think lots of people are really shocked that this is reality in Quebec today. How do you, as someone who, you know, grew up here and has loved this place as your home, how do you make sense of Bill 21? What does the Bill 21 project make you reflect on?
Yeah, that's a very big question. I want to go from sea level to like 30,000 feet above ground and see this issue from a global perspective. I think there is enough conversation from a rights and freedoms point of view, and all of that is incredibly important, but maybe one angle or one reflection that is seldom discussed is how this fits into a worldwide and in a global perspective. Mm-hmm. And as we live right now in a historical moment in the context of this pandemic, one thing that I can't help but appreciate is how much this pandemic has made us realize that our world is connected than ever before. And what this pandemic has made us realize, it's reminding us loud and clear that no one is truly safe until we are all safe. And what happens in one part of the world affects the whole world. So when we take a step back and reflect on this interconnectedness, it allows us to appreciate that this world belongs to everyone. And we share this world and we share society with humanity. And I'd like to emphasize this concept of humanity because the way I see it, with Bill 21, humanity is at stake. And there is a quote by Martin Luther King that resonates with this idea. He said so eloquently that injustice anywhere is a threat to justice everywhere.
whatever affects one directly affects all indirectly. And he understood this interconnectedness and our common destiny. And if we allow Quebec to get away with this cruel and callous law, it is basically paving the way for more harm, because political leadership sets the tone for what is and what is not acceptable in society. For example, clear and direct discriminatory effects of the bill, there are unintended or indirect consequences of Bill 21. For example, after Bill 21 was first tabled, a Montreal women's rights group reported receiving more than 40 calls from Muslim women reporting hate incidents, including verbal and physical abuse, being spat on in public, and having people attempt to rip their hijab off. So in the backdrop of a society in which Islamophobia is on the rise, this kind of law gives legitimacy for people to hate and to act on that hatred. This is why Bill 21 goes against cohesion and harmony in a society as diverse and multicultural as Quebec. And the government needs to take responsibility for the impact of their legislation and the sentiments that they are promoting. The last thing we need in society is more division and more hate. And the best antidote to hate and division is to create opportunities for everyone, to make people feel accepted, and by allowing them to integrate into society, instead of taking away their jobs or asking them to choose between their identity and their livelihoods. This law is taking Quebec down a very dark and dangerous path that no one has any interest going down. It is very dangerous to sow division in society, and I don't want to elaborate more on that, because we see that happening all around the world right now as we speak.
Quelles sont, à ton avis, des idées fausses ou des mythes qui circulent à propos de cette loi?
Donc, cette loi est voilée sous le prétexte de la laïcité. Mm-hmm. Son objectif est de séparer l'Église et l'État, et en première vue, cela semble légitime, c'est formidable. Personne n'est contre un État neutre et laïque, mais cela signifie que c'est l'État qui est censé être neutre, pas les individus. Un État réellement neutre est un État au sein duquel aucune religion n'est préférée par rapport aux autres. Un État neutre traite tous ses citoyens de la même manière, et la loi 21 fait exactement le contraire. Il est tout à fait possible d'avoir un gouvernement fort et laïque et une société forte et laïque sans imposer de restrictions arbitraires sur la façon dont les gens s'habillent au sein du gouvernement et des institutions publiques. Il n'existe aucune preuve pour étayer l'idée que le port d'un symbole religieux entrave la capacité d'agir de manière impartiale dans l'exercice de sa profession. Et en tant qu'étudiante en droit et musulmane, je ne trouve aucune contradiction entre l'adhésion à ma foi et à l'application des lois laïques. Le seul obstacle à ma capacité d'appliquer ces lois laïques se présente sous la forme de la loi 21. Cette loi est un plafond de verre imposé à ceux d'entre nous qui souhaitent adhérer à une pratique religieuse et servir notre communauté alors que nous sommes autrement qualifiés.
As someone who is directly impacted by Bill 21, what would you invite listeners and other people to reflect on?
I invite Quebecers to reflect on how this bill fuels more inequality for minorities. Mm-hmm. People who are affected by this law are Muslim women who wear the hijab and Sikh men and women who wear a turban. And these two groups are also representative of minority groups and immigrant communities and people of color. So it is not just an issue of religious equality, but also of racial equality. All of this is happening in the backdrop of recent events that our society is grappling with. such as the protests against systemic racism, the treatment towards Indigenous populations, the tragic death of Joyce Ishaquan, and the fact that our Premier, François Legault, has outright negated the question of the existence of systemic racism in Quebec. So Bill 21 is on the wrong side of equality, it is on the wrong side of history, and Bill 21 is on the wrong side of humanity.
On January 17, 2020, Montreal students from different universities protested against Bill 21 by marching to the Ministry of Immigration. On this day, Asiya shared a powerful poem at the steps of McTavish Street with her fellow marchers. She shared this poem with us again for you to hear.
It would be so easy to take it off. Ce symbole ostentatoire. I could blend in with the crowd, but this girl happens to be damn proud. Being the elephant in every room devient un privilège inattendu, inspirant des dialogues et des doutes, visant ultimement le respect pour tous et toutes. Living my motto that what's in a head is more important than what's on it. So here's a snapshot into this head of mine, in case you were wondering what's underneath this covering. À part mes cheveux, ben oui, j'en ai des cheveux. Et comme vous, un tas d'incertitudes. Vais-je réussir dans mes études? And some other issues keeping me up at night. Why can't we just get along? What's it going to take? Some say when in Rome, do as the Romans do. But this ain't Rome. This is Quebec, my home. Put all the legalese aside and all the fancy politics. This is downright embarrassing. Is this the Quebec we want to be showcasing? Our progressive society, fighting for liberty, celebrating diversity, now implementing hypocrisy.
Thanks for listening, and thank you to everyone who contributed to this episode. Write to us at legalese@ckut.ca. Vous écoutez une émission de Legalese sur CKUT 90.3. You can listen to Legalese every second Friday of the month from 11 a.m. till 12 noon on CKUT 90.3 FM. We'll leave you with a track from Mona Haidar.
What the hair look like? Bet the hair look nice. Don't that make you sweat? Don't that feel too tight? Yo, what your hair look like? Bet your hair look nice. How long your hair is? You need to get your life. You only see Oriental. You steady working that dental. You popping off at the lip and run your mouth like a treadmill. That's your exotic vacation. I'm bored with your fascination. I need that paper, paper, paper if you want education. All around the world, love women every shade of hair. Swagging my hijabi. Me and my hijabi ladies, we was born in the 80s. So pretty like the Euphrates and party like some Kuwaitis. Deeper than some diplomas, current like some hot yoga. Taking back the misnomers and teleporting through trauma. Teleporting through trauma, teleporting through trauma. I've been stacking my karma, Nefertiti no drama. Make a feminist planet, woman haters get banished. Covered up or not, don't ever take us for granted. All around the world, love women every shade of. Even if you hate it, I still rap my hijab, rap my hijab, rap my hijab, rap, rap my hijab. Keep swagging my hijab, swagging my hijab, swagging my hijab, swagging, swagging my hijab. I still rap my hijab, rap my hijab, rap my hijab, rap, rap my hijab. Keep swagging my hijab, swagging my hijab, swagging my hijab, swagging, swagging. You're just jealous of my sisters, these mipsters, these hippies, these prissies, these Sufis, these dreadies, these Sunnis, these Shiais, Yemenis, Somalis, Lebanese, Pakistanis, these Sudis, Sudanis, Iraqis, Punjabis, Afghanis,
Yazidis, Khadijis, Indonesians, Egyptians, Canadians, Algerians, Nigerians, Americans, Libyans, Tunisians, Palestinians, hidden beyond the Mekong in Laos, Senegalese and Burkina Faso.
Afternoon, you're tuned to Butcher T's Noontime Cuts, hitting every Friday from noon to 2, playing you a wide variety of music just to make your afternoon delight just right. So stay locked to CKT 90.3 FM.
Sleeping all day, cheap and rolling.